Il est 7h.
La première fois, on part à l'aventure. On sait que ça va être difficile parce qu'on vous l'a dit, parce qu'on l'imagine. La deuxième fois, on sait exactement à quoi on s'expose.
Et c'est cette expérience qui lui vaut aussi le titre de commandant cette fois-ci. Thomas Pesquet décolle tout à l'heure pour la Station Spatiale Internationale pour sa deuxième mission dans l'espace. Nous sommes au centre de commandement SpaceX dès le début de ce journal. Un déconfinement progressif et un protocole strict pour les écoles avec demi-jauge et autotest. Le gouvernement joue la prudence face au virus mais choisit de maintenir les épreuves du bac. Dans ce journal également, les policiers qui craignent pour leur méthode d'enquête après une décision du Conseil d'État sur le bornage téléphonique. Et puis ce coup de tonnerre à Bordeaux. En football, le propriétaire américain des Girondins s'en va et coupe les vivres. Juste après ce journal, l'éclairage éco. Daniel Fortin, suivi du regard international de Vincent Hervouet.
Le succès du sommet sur le climat de Joe Biden, l'Amérique est de retour et son président acclamé presque autant que Donald Trump était hué.
L'édito sport de Virginie Fulpin et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Quand on baille aux corneilles, on ne fait pas grand-chose. Et bien moi je vais m'activer, je vais vous raconter d'où vient cette expression.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est avec vous Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Cette fois-ci, la météo devrait le laisser décoller. Départ prévu à 11h49, heure française, pour la mission qui emmènera Thomas Pesquet vers la Station Spatiale Internationale. Il va devenir le premier Européen à voler à bord d'une fusée privée, la capsule Crew Dragon de l'entreprise SpaceX, qui réalise ce lancement pour la NASA.
Et nous sommes au centre de commandement de SpaceX à Hautain, en Californie, où nous attend Benoît Clerc. Bonjour Benoît.
Bonjour, bonjour à tous.
À moins de 5 heures du décollage maintenant, ça y est, tout le protocole est lancé.
Oui, Thomas Pesquet et ses trois collègues ont été réveillés voici un peu plus de 2 heures. Ils sont en train de finir leur petit déjeuner hier en raison de la météo défavorable pour le lancement. Vous le savez, ils ont eu finalement quartier libre pour une dernière promenade sur la plage de Cap Canaveral. Et l'astronaute européen en a profité pour poster une photo de leur groupe regardant la mer sur les réseaux sociaux. Dans quelques dizaines de minutes maintenant, ils vont quitter leur centre de quarantaine à bord de 2 Tesla blanches et rejoindront le mythique pas de tir 39 depuis lequel près de 400 astronautes se sont envolés avant eux depuis le début de la conquête spatiale. Thomas Pesquet va non seulement effectuer plusieurs dizaines d'expérimentations en apesanteur, tant pour l'Agence spatiale européenne que le Centre national d'études spatiales français, mais il prendra également le contrôle comme commandant de bord de la Station spatiale internationale en juillet prochain.
Benoît, la fusée décolle donc de Cap Canaveral, vous l'avez dit, en Floride, mais le vol sera contrôlé depuis le centre de commandement où vous vous trouvez à l'autre bout du pays, en Californie. L'ambiance est déjà studieuse, concentrée?
Oui, alors ici au Command Center, vous l'imaginez, l'ambiance est fébrile et même si on a limité au minimum le personnel de SpaceX vacciné, testé et masqué qui est présent dans le centre de contrôle du vol, il ne faut pas oublier que c'est seulement le second décollage d'une capsule Dragon habitée par 2 Américains, un Japonais et Thomas Pesquet. Le compte à rebours débute dans maintenant moins de 30 minutes à 7h30 heure de Paris, un peu plus de 4 heures avant le décollage.
Merci Benoît Clerc, correspondant d'Europe 1 en ligne du centre de commandement SpaceX à Hautain en Californie.
7h03 sur Europe 1. Pendant que Thomas Pesquet s'envole, nous aussi on s'apprête à retrouver un peu d'espace. Déconfinement à partir du 3 mai, mais alors très progressivement.
Il n'y aura plus de limite de déplacement, a confirmé hier soir Jean Castex, mais le couvre-feu restera en vigueur. Le pic de la troisième vague semble derrière nous, a déclaré le Premier ministre, tout en rappelant que la pression dans les hôpitaux restait élevée. La rentrée dans les écoles aura bien lieu lundi. En tout cas, bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Mais ce sera sous un protocole sanitaire strict, avec des classes au complet uniquement en maternelle et en primaire, demi-jauge pour les lycées et c'est nouveau au collège aussi, dans les 15 départements les plus touchés par l'épidémie.
Oui, c'était une revendication de tous les syndicats, faire des demi-jauges au collège comme au lycée. C'est la première fois que le ministère de l'Éducation nationale s'y résout. Il faut dire que dans les zones où le virus circule intensément, certains collèges accueillent autant d'élèves que de gros lycées avec des locaux parfois exigus. Ce passage en demi-jauge est réservé aux classes de 3e et de 4e, soit aux élèves les plus autonomes dans leurs apprentissages. Et pourtant, ça va tout de même forcément contraindre les parents dès le 3 mai à des adaptations d'emploi du temps. Au lycée, les demi-jauges sont étendues à tout le territoire national. Avant les vacances, c'était dans les 19 départements confinés. Et pourtant, Jean-Michel Blanquer a confirmé le maintien des épreuves du bac grand oral et écrit de philo. Le brevet est également maintenu.
Au lycée, les élèves de plus de 15 ans vont aussi découvrir les autotests à partir du 10 mai.
Oui, autotests qui se dérouleront au lycée une fois par semaine, sous supervision du personnel de santé, de médiateurs ou bien d'enseignants volontaires.
Et puis une confirmation, Virginie, je le disais, sur le protocole en cas de cas positif, un protocole très strict.
Oui, dès lundi, les écoles vont de nouveau appliquer la règle 1 cas de Covid, une fermeture de classe, règle qui s'étendra ensuite au second degré. Au primaire, les tests salivaires vont être doublés et tous les instituteurs et aides maternelles recevront gratuitement 2 autotests par semaine à réaliser chez eux.
Tout ce qu'il fallait retenir des mesures annoncées hier soir pour l'école, avec vous Virginie Riva. Merci Virginie.
Et vous l'avez dit, épreuve du bac maintenue, notamment le nouveau grand oral, alors que tous les élèves n'auront pas cours de la même façon. C'est incompréhensible pour le syndicat d'enseignants SE-UNSA, son secrétaire général, Stéphane Crochet.
Ah, on voit bien un entêtement à vouloir absolument maintenir quasiment de façon symbolique ces épreuves du bac, alors que tout le reste jusqu'ici a été adapté et qu'on va se mettre en difficulté pour organiser les oraux et l'écrit de philosophie notamment. Et puis, il va falloir organiser ces épreuves orales avec la crainte pour les élèves d'être malades ou symptomatiques au moment où arrivera l'épreuve. Et donc pour eux, toutes les complications s'il fallait être sur des épreuves de rattrapage plus tard.
Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat SE-UNSA.
Pas de date de reprise précise. En revanche, pour une réouverture des terrasses, des commerces, des lieux de culture, elle se fera autour de la mi-mai, si la situation le permet, a précisé Jean Castex, et probablement pas au même rythme dans toutes les régions.
C'est peut dire qu'elle est attendue, en tout cas, notamment dans les régions touristiques, où l'on se réjouit déjà hein, quand même de la fin de la limite des 10 km à partir du 3 mai, comme ici à Pornic, en Loire-Atlantique, où s'est rendu Charles Guyard.
La saison va démarrer le 3 mai. Ouais.
Derrière son comptoir de la fraiserie, Marianne est soulagée. Avec la levée des restrictions de déplacement, cette institution locale risque d'être prise d'assaut.
Ça va refaire venir du monde, ouais, complètement. C'est vrai que les 10 km coupent un peu.
Non loin du glacier, le manège rétro et gourmand tourne, lui, parfois presque à vide, faute d'enfants. Du coup, après un début de printemps bien morose, le gérant Michael attend évidemment le 3 mai avec une certaine impatience.
On aurait tous les gens des alentours. On arriverait à avoir les Nantais, par exemple, parce que Pornic, c'est pas loin de Nantes. C'est vrai que c'est un gros manque de pas avoir tous ces gens-là, surtout le week-end.
Même constat et même enthousiasme chez ce marchand de gaufres installé sur le port. Pour Tony, le retour des vacanciers ou de simples visiteurs devrait redonner un coup de fouet.
Oui, ça va changer pas mal pour nous, puisqu'on aura les Parisiens, tout le monde, qui pourront se déplacer jusqu'à Pornic. C'est sûr que les week-ends, on travaillera mieux. Ce sera que positif. Hein.
Que du positif, à condition, rappelle Loïc, patron du restaurant du château, d'être bien prudent, histoire de ne pas repartir dans le rouge avant l'été.
Faut pas rouvrir pour refermer, c'est ça qui me gêne.
Pornic, Charles Guyard, Europe 1.
Et notez qu'un quatrième vaccin vient compléter notre arsenal. À partir de samedi, le sérum Johnson & Johnson, disponible pour les plus de 55 ans.
7h08 sur Europe 1, l'actualité judiciaire à présent, et cette décision du Conseil d'État qui inquiète les services de police.
Des pans entiers de leurs enquêtes reposent sur l'utilisation des données téléphoniques des malfrats. Plus de 2,5 millions de demandes faites chaque année auprès des opérateurs pour éplucher les fameuses FADET, ces fichiers qui permettent de connaître la localisation à l'instant T d'un téléphone ou bien le lien entre deux suspects grâce au bornage. Et bien dans un arrêt, le Conseil d'État vient de limiter l'accès à ces données au nom de la protection de la vie privée. Justin Morin, c'est un coup de massue pour le milieu judiciaire.
Oui, effectivement, parce que du point de vue d'un procureur que j'ai joint, c'est une catastrophe. Ces données téléphoniques, c'est comme les relevés bancaires. Les officiers de police judiciaire les demandent de façon quasi systématique. Elles sont conservées un an par les opérateurs et c'est aujourd'hui un outil d'enquête majeur pour obtenir des preuves. Alors le Conseil d'État n'interdit pas leur utilisation. Ce sera toujours possible pour les dossiers de terrorisme et de criminalité organisée, mais plus pour les affaires dites de crimes ordinaires. Alors reste encore à préciser à quoi ça correspond juridiquement. Mais Éric Maillot, le procureur de la République de Clermont-Ferrand, alerte sur les risques de ralentissement des enquêtes.
Un père de famille séparé qui enlève son enfant de force, ça n'est pas de la délinquance organisée, c'est une affaire pourtant grave. On ne pourrait pas recourir aux FADET et donc on ne pourrait pas vérifier l'endroit ou le téléphone de cette personne a borné, par exemple. Il y a la question aussi de savoir si les trafics de stupéfiants pourraient être également concernés par cette limitation. Si on enlève cet élément-là, on affaiblit la capacité des enquêteurs, c'est très clair.
Comme d'autres magistrats, il attend désormais la circulaire d'application du ministère de la Justice. Elle doit préciser et acter dans les prochains jours la fin de l'utilisation systématique de ces données téléphoniques.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. Des pompiers visés par des tirs de feu d'artifice alors qu'ils intervenaient sur l'incendie volontaire d'une école maternelle à Lille hier soir. Il n'y a pas eu de blessés, mais le bâtiment est dévasté. La rentrée de lundi ne pourra pas s'y tenir. La maire de Lille, Martine Aubry, condamne fermement ces faits.
Il a commencé hier en visioconférence, deuxième et dernier jour du sommet mondial sur le climat aujourd'hui.
Les plus gros pollueurs de la planète ont presque tous annoncé ce jeudi des objectifs plus ambitieux pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Effort multiplié par 2, par exemple, pour les États-Unis, accru aussi pour le Japon, le Brésil ou l'UE. Mais ça ne suffit toujours pas à rester dans les clous de l'accord de Paris qui limite le réchauffement à 2 degrés d'ici la fin du siècle. D'où la colère hier soir de la jeune activiste Greta Thunberg qui s'est adressée aux dirigeants mondiaux.
Combien de temps pensez-vous honnêtement que les gens au pouvoir comme vous vont s'en tirer ? Combien de temps pensez-vous pouvoir continuer à ignorer la crise climatique, l'aspect global de l'équité et les émissions historiques sans être tenu pour responsable ? Si nous voulons respecter nos promesses et nos engagements dans l'accord de Paris, nous devons mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles, arrêter les nouvelles explorations, les extractions, désinvestir complètement des combustibles fossiles et garder le carbone dans le sol.
Greta Thunberg dans une vidéo publiée hier soir. En bref, à l'étranger, Emmanuel Macron est arrivé au Tchad pour les obsèques aujourd'hui de l'ancien président Idriss Déby. En Haïti, 3 des 7 religieux catholiques enlevés il y a une dizaine de jours ont été libérés, mais pas les 2 Français, annonce la conférence des évêques. Haïtienne.
On termine avec les sports. Coup de tonnerre en football pour les Girondins de Bordeaux.
Le fonds d'investissement américain qui avait racheté le club il y a 3 ans pour 100 millions d'euros. Aujourd'hui, il s'en va, il coupe les vivres, pas satisfait du retour sur investissement. Bordeaux se retrouve dans l'incertitude la plus totale, sous la protection du tribunal de commerce, alors que son maintien en Ligue 1 n'est toujours pas assuré. Les amoureux du club au scapulaire sont abasourdis, à l'image de l'ancien entraîneur Eli Bope.
C'est un choc, évidemment, très difficile à encaisser pour tous ceux qui aiment les Girondins, pour les supporters, pour tous ceux qui ont connu ce club qui fait partie vraiment de l'histoire du football français. Et l'avenir est incertain parce que là, soit il y a un repreneur et le déficit est conséquent, le rachat du club, enfin, je veux dire, il faut beaucoup d'argent, soit c'est direction National 3 et c'est terrible pour tous les gens qui travaillent là-bas, pour tout ce que se représente aussi ce club, pour le football français, pour la ville, pour tous ces supporters qui sont nombreux. Voilà, c'est vraiment une cata, quoi. Voilà.
Une catastrophe. Mais le maire de Bordeaux, lui, n'est pas surpris. Il avait voté contre ce rachat par King Street à la Métropole en 2018. Pierre Urmic qui met en garde aujourd'hui les autres clubs français qui sont lorgnés par de grands fonds financiers.
Tout le monde savait, à part peut-être quelques Américains, que les clubs de football en France ne sont pas rentables, que celui-là était endetté, qu'il le payait très cher. Hein. Ils l'ont payé 100 millions d'euros. Ils ont investi de l'argent dans ce club et ils n'ont pas eu de retour financier. Donc la situation, sur le plan financier, elle était précaire. Bon, et là, ils ont choisi cette période qui est difficile sur le plan sportif, en plus, pour se retirer du financement du club. On va dire ça manque peut-être un peu d'élégance. Donc je pense qu'on va tous serrer les coudes pour faire en sorte que ce club soit repris et puis connaisse une nouvelle vie et qu'une page soit rapidement tournée.
Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, Bordeaux actuel 16e de Ligue 1, qui a encore 5 rencontres seulement pour assurer son maintien.
Il y a des investisseurs qui n'ont rien à faire dans le football. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin et c'est dans une dizaine de minutes.
Et puis, y aura-t-il des sanctions contre les 12 grands clubs européens qui ont voulu faire sécession au sommet du foot européen? Réunion de l'UEFA aujourd'hui pour en décider. Il ne devrait pas y avoir d'exclusion, mais des possibles sanctions contre les présidents de ces clubs sécessionnistes.
On va rappeler que le PSG affronte Manchester City, qui fait partie de ces 12 clubs, la semaine prochaine en demi-finale de Ligue des Champions. Merci Théo Manval. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.